Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ils ont été élus, mais peut-être pas pour ça. Aucun dirigeant des démocraties occidentales ne s'attendait à devoir faire face à une crise comme la pandémie de coronavirus. Tous s'y sont attelés avec des moyens, des discours et des résultats très variables en termes sanitaires, mais tous font face à des conséquences politiques plus ou moins importantes en termes de popularité. Emmanuel Macron en France, Donald Trump aux États-Unis ou Boris Johnson au Royaume-Uni perdent des points dans les sondages, des préoccupations qui touchent évidemment beaucoup moins les dirigeants autoritaires. Le coronavirus affaiblit-il les dirigeants des démocraties et les démocraties elles-mêmes? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités sont avec nous en direct par téléphone ce soir. Jean-François Boutor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, journaliste, collaborateur de la revue Esprit et éditorialiste à Ouest-France, avec Jean-Luc Nancy qui est philosophe, professeur émérite à l'Université des sciences humaines de Strasbourg et qui aurait dû être avec nous ce soir mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Vous avez coécrit « Démocratie, hic et nunc » aux éditions François Bourin ainsi qu'une tribune dans le journal Le Monde le 18 mai. « Coronavirus, seule la démocratie peut nous permettre de nous accommoder collectivement de la non-maîtrise de notre histoire ». Et Vincent Martini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique, chercheur associé au CEVIPOF, membre du comité de rédaction de la revue trimestrielle Zadig et du 1 Hebdo, auteur de nombreux livres, dont Le Retour du Prince aux éditions Flammarion. On va peut-être commencer avec vous, Vincent Martini. La pandémie et ses conséquences sur tous les plans sont inédites. Les conséquences politiques le sont également. Elles sont peut-être difficilement envisageables à l'heure actuelle en l'état actuel de ce qu'on sait.
Oui, elles sont difficilement envisageables. On sait donc déjà un certain nombre de choses quand même. On sait que tous les dirigeants n'ont pas résisté de la même manière à la pandémie. Tous ne sont pas été discrédités de la même manière. Donc il y a des conséquences politiques qui vont être immédiates d'une certaine manière. C'est ce qu'on mesure, par exemple, dans mon laboratoire de recherche, le CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, c'est-à-dire la défiance avec un certain nombre de dirigeants. On voit, par exemple, qu'en France, la distance entre les citoyens et le gouvernement est plus grande qu'en Allemagne, par exemple, où Angela Merkel sort plutôt renforcée de cette séquence. Et puis, il y aura des conséquences à long terme, des conséquences sur le système politique, des conséquences sur les partis, des conséquences sur les libertés. Et ces conséquences-là, en effet, elles sont difficiles à prévoir parce que, justement, de fait, tant qu'on est encore dans la crise sanitaire, ce futur ne s'écrit pas encore.
Jean-François Boutor, ces conséquences, peut-être à moyen ou long terme, effectivement, c'est difficile de les envisager à l'heure actuelle ou est-ce qu'on a déjà quelques idées de ce qui pourrait se passer?
On peut comprendre que peu de dirigeants vont sortir indemnes de cette crise, y compris d'ailleurs, je vais m'inscrire un petit peu en faux avec ce que vous disiez juste au début, y compris, je pense,
vous les pouvez, allez-y, n'hésitez pas.
Y compris les dirigeants des pays autoritaires, parce qu'on voit même que maintenant, c'est pas si simple pour Vladimir Poutine en Russie, parce qu'il ne parvient pas à maîtriser la situation. Alors qu'il est censé l'être, enfin, il a joué le rôle de l'homme qui pouvait tout, d'une certaine manière. Je pense que pour Xi Jinping, c'est aussi très compliqué parce que le système chinois repose sur sa capacité à faire fonctionner l'économie, mais il est devant la perspective d'une crise économique majeure comme nous, mais qui va l'affecter terriblement parce que qui va mettre en doute le contrat de prospérité en échange de la soumission. Il y en a peut-être un qui s'en sort bien pour l'instant, mais c'est un peu des circonstances qu'on n'explique pas très bien. C'est Viktor Orban qui, en Hongrie, bénéficie du fait que le pays a été très peu affecté. Mais comme les pays voisins, comme la République tchèque, comme l'Autriche, comme la Pologne, on ne sait pas très bien pourquoi les pays d'Europe centrale ont été moins sensibles au coronavirus. Donc, mais globalement, je pense qu'aucun dirigeant n'était prêt à affronter une telle crise. Et les opinions publiques qui sont informées en continu, qui sont soumises aux injonctions contradictoires qui ont été diffusées, qui entendent ou voient des médias qui, dans leurs fonctions, sont essentiellement critiques, c'est-à-dire mettre l'accent sur ce qui ne va pas, et parce qu'au fond, leur crédibilité, tant elle est faible généralement, c'est de montrer qu'ils sont capables d'être les plus critiques. Les opinions publiques sont forcément critiques, alors à des degrés divers. Ce que évoquait tout à l'heure Vincent Martini sur la différence entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire le taux de popularité actuel d'Emmanuel Macron ou d'Angela Merkel, ça recoupe aussi le fait que le rapport de méfiance au gouvernement en France et en Allemagne est depuis longtemps pas le même non plus. L'opinion publique allemande est plus bienveillante à l'égard de ses dirigeants que ne l'est la France, notamment depuis les crises successives, les gilets jaunes, la crise des retraites, mais même avant.
Vincent Martini. Alors je vais passer la parole à Vincent Martini, si vous le voulez bien, parce que j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit, Jean-François Boutor, en parlant de la Hongrie et des pays de l'Est de l'Europe notamment. Est-ce que les conséquences politiques en termes d'opinion sont proportionnel au bilan humain de l'épidémie dans chaque pays? Est-ce qu'on peut avancer ce genre de choses?
Non, ça marche pas vraiment comme ça, parce que regardez par exemple le niveau de confiance dont jouit Boris Johnson, quand même le leader du pays le plus touché d'Europe devant l'Italie. Il a une opinion qui est beaucoup plus favorable que là Emmanuel Macron ou que là d'autres éléments. Je pense qu'encore une fois, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui se joue dans cette crise n'est pas forcément inventé par cette crise. Le Covid révèle et accélère des processus politiques qui étaient déjà à l'œuvre avant le début de l'épidémie. Le monde n'est pas né hier et en politique encore moins. C'est-à-dire que la crise du Covid, en France par exemple, elle a accentué la distance, ou en tout cas elle a montré cette distance qui existait bien avant, évidemment vous avez tout à fait raison de le rappeler, entre les citoyens et les dirigeants, de la même manière qu'en Allemagne, elle a confirmé finalement le sentiment qu'avaient les citoyens que le gouvernement faisait du bon travail. Je pense que ce que ça montre aussi, c'est que en Grande-Bretagne, par exemple, ça c'est intéressant, quand on réfléchit au bilan du leader dit populiste, eh bien c'est un bilan ambivalent. Car autant Bolsonaro et Trump, pour l'instant, sont plutôt dans la tourmente du Covid, autant, de manière surprenante, Viktor Orban ou Boris Johnson, eux, continuent de jouir d'une certaine opinion favorable dans leur pays, ce qui tient probablement à des effets de culture politique aussi. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont des traditions plutôt de se souder autour d'une idée en cas de crise, c'est le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas des pays d'Europe centrale et orientale aussi très souvent, alors que certains d'autres pays ont des problèmes d'unité, ont des enjeux d'unité, c'est le cas de la France, où ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les derniers sondages du CEVIPOF, ou les dernières enquêtes du CEVIPOF, on vous dit que ce qui se joue en France, c'est la peur de ne pas avoir été traité de manière égalitaire vis-à-vis de ses autres concitoyens. C'est vraiment ça le principal reproche, c'est non seulement le gouvernement ne s'est pas bien préoccupé des Français, mais en plus, il y a une rupture d'égalité entre eux. Et donc, ça montre aussi, là, ici, pas forcément des effets de réalité, mais ça montre surtout des effets de perception des citoyens français dans leur relation à l'égalité, une conception très exigeante. Donc voilà, ce que je crois que le Covid révèle, c'est non seulement l'ampleur, des fois, de la distance démocratique qui se joue dans un système donné, mais aussi ça révèle des cultures politiques qui se jouent et qui peuvent plus ou moins avoir des conséquences négatives pour les leaders en question.
Jean-François Boutor, cette pandémie de coronavirus, de Covid-19, c'est quelque chose, on l'a dit à de multiples reprises, qui est totalement inédit, on est dans l'inconnu. Est-ce qu'on peut, quand on est dirigeant politique, prendre de bonnes décisions face à l'inconnu? Est-ce que fatalement, il n'y a pas que des mauvais choix?
Non, il n'y a pas, y a, on peut pas, on peut absolument pas dire qu'il n'y a que des mauvais choix. Il y a surtout le fait d'être dans une situation comme celle-ci, si vous voulez, il y a les dirigeants politiques qui sont face à l'inconnu, mais il y a l'opinion publique qui est elle-même face à l'inconnu. Et ce que le dirigeant politique doit gérer, c'est à la fois ce que lui ne connaît pas et ce que l'opinion publique ne connaît pas et comment elle le supporte. Et on voit bien là aussi que, pour aller dans le sens de ce que disait Vincent Martini, il y a des cultures différentes. La société française est extrêmement anxieuse et donc elle est en demande très forte de protection, est en demande très forte d'une autorité qui la rassure. Et ce qui est très difficile, à mon avis, pour le gouvernement actuellement en France, c'est qu'il n'a pas il n'a pas toutes les réponses et il n'est pas capable de faire croire qu'il a toutes les réponses. D'ailleurs, chaque fois qu'il tente de le faire croire, il se prend les pieds dans le tapis parce que de toute façon, il ne peut pas. Et d'ailleurs, on vient de le voir encore cet après-midi. La posture maintenant qui est adoptée en particulier par Édouard Philippe, c'est celle de dire très souvent « je ne sais pas ». Parler d'une politique qui est plutôt prudentielle qu'une politique qui serait celle du volontarisme. C'est plutôt celle du moindre mal que celle de la super efficacité technicienne qui était un petit peu la posture que présentait Emmanuel Macron quand il faisait sa campagne de présidentielle qu'il a menée au pouvoir en 2017. Ça, c'est la vraie difficulté, c'est ça. C'est comment, non seulement des dirigeants, mais comment une société fait face à une situation qui est pas totalement inédite, mais qui est massive, qui est de se retrouver en situation de ne pas savoir. Au fond, on est en train de sortir d'une période qui, au fond, a commencé sans doute à partir de 1850, au moment où un certain nombre de découvertes scientifiques ont donné l'impression qu'on allait pouvoir tout connaître et tout maîtriser.
D'accord, je voudrais bien...
Oui, alors, voilà, Vincent Martini, allez-y, j'ai l'impression que le débat s'instaure, c'est très bien.
Que soulevait Jean-François Bouton, ce qui me semble qu'il se joue dans cette crise aussi, c'est en fait la fin d'une forme d'infaillibilité présidentielle. Ce qui se joue dans la crise du système politique français qui accélère la crise du Covid, c'est le fait que ce président qui se voulait très martial, très sûr de lui, eh bien, les Français sont un peu lassés de cette position-là. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas la crise du Covid qui a inventé ça, mais je crois que ça l'a accéléré. Et d'une certaine manière, je crois que ce qui se joue ici, c'est qu'on préfère un leader qui va dire « je ne sais pas », qui va être dans l'expectative, comme Édouard Philippe, et qui va finalement prendre plus de points, parce que là, on est quand même dans une des faillites de la Ve République, dans son hyper-présidentialisation. Et même Emmanuel Macron, qui représentait vraiment la quintessence de ça, et qui avait pu séduire les Français dans un premier temps avec cette formule, on voit bien que, encore une fois, avant le Covid, avec la crise des Gilets jaunes, ou encore avec les contestations sur la réforme des retraites, c'est une forme de pouvoir qui vient d'en haut, qui se veut infaillible, qui est ce pouvoir jupitérien, pour prendre une formule qu'affectionne le président de la République, que c'est là que se joue l'opposition, me semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle on peut expliquer la remontée dans les sondages d'Edouard Philippe vis-à-vis de Mme Macron. Donc je crois aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il peut y avoir des transitions de culture politique. Hein. Un pays n'est pas figé de tout temps. Il peut avoir eu un goût pour un type de leadership à un moment donné. Et ce qui se joue démocratiquement, et ce que disaient Jean-François Bouton et Jean-Luc Nancy dans leur tribune dans Le Monde, c'est aussi que, eh bien, peut-être le futur se réouvre, des possibles se réouvrent avec cette crise. Et c'est là, je crois, qu'il y a un avenir possible. Et je crois que se joue la démocratie au sens où la définissait Claude Lefort, celle d'un régime d'historicité, un régime où l'histoire est ouverte et peut imaginer beaucoup de possibles.
Oui, Jean-François Boutor, si je vous dis que le rôle de l'État depuis le Moyen-Âge, c'est de protéger les citoyens. C'était le cas avec les seigneurs qui protégeaient son environnement immédiat en cas d'attaque et qui, en échange, eh bien, levaient des impôts. Et si je dis l'État a failli à sa mission de protection, ça ouvre d'autres champs possibles ?
Il faudra d'abord savoir si cette assertion, l'État a failli à sa mission de protection, il faudrait savoir si on peut lui imputer la totalité de la faillite. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le rendre responsable de toute la faillite. Est-ce qu'on peut considérer que l'État, parce qu'il est l'État, devrait avoir toutes les réponses par essence? C'est ce que, d'une certaine manière...
C'est un petit peu la culture française, quand même.
Oui, mais c'est ça, c'est de ça dont on souffre aussi, d'une certaine manière. C'est d'une espèce d'attente d'un État-providence qui, depuis un certain temps, était en fait en réelle difficulté parce que les données tout simplement économiques pour poursuivre cette manière d'être, cette manière de fonctionner, ne répondaient pas. Je veux dire, on peut évidemment... on peut évidemment reprocher à l'ultralibéralisme d'avoir abouti à une gestion hospitalière qui a organisé la pénurie, mais on ne peut pas oublier, par exemple dans ce domaine-là, que si les gestionnaires ont pu prendre la main sur le système de santé publique, c'est parce que la demande de santé avait tellement augmenté, elle s'était renchérie, ne serait-ce qu'avec, d'une part, le vieillissement de la population, mais d'autre part, l'intervention de techniques de plus en plus sophistiquées, mais aussi de plus en plus coûteuses, qui faisait que la soutenabilité économique telle qu'on l'avait pratiquée pendant, disons, les Trente Glorieuses, n'était plus possible. On ne pouvait pas tout faire. Et on n'avait pas, on n'était pas en état de tout financer. C'est pour ça, d'une certaine manière, les gestionnaires sont rentrés pour essayer de mettre de l'ordre ou de trouver des solutions qu'on n'a pas trouvées. Mais ça, est-ce qu'il faut dire que l'État en est responsable? C'est aussi la société qui en est responsable avec le type de demande qu'elle pose et les types d'exigences qu'elle adresse à l'État et aux gouvernants.
C'est une rupture, Vincent Martini, dans ce que la société, les gens attendaient de l'État. Ils s'aperçoivent que l'État ne peut pas tout. C'est aussi
Mais
ça
non,
qui
je
explique.
Suis, je suis pas totalement d'accord.
Oui, oui.
Je suis pas totalement d'accord. Je pense qu'il y a deux éléments distincts. Que les Français, c'est une demande d'État à Providence. Il me semble que cette demande d'État à Providence, elle n'a jamais décliné. Hein. Encore une fois, quand on observe les taux de confiance dans les institutions, l'hôpital public est à plus de 80% de confiance de la part des Français, et ça fait des décennies que ça dure. Je crois qu'il n'y a jamais eu de crise de confiance dans l'État. Au contraire, je crois même qu'il y a un fantôme de l'État, il y a un fantasme des Français que l'État pourrait gérer beaucoup plus que ce qu'il ne peut en réalité. Et puis, ce qui, à mon avis, en crise ici, c'est plutôt une culture de gouvernement. Ce n'est pas pareil que l'État. Il y a l'État en tant que superstructure protectrice, ça je crois qu'il y a une vraie demande. Et puis, il y a une culture de gouvernement, il y a une façon administrative de gérer les choses, dont là, peut-être, les Français se plaignent au sens où ils considèrent, c'est les débats qu'on a pu entendre depuis quelques semaines, qui sont infantilisés, qu'il y a une culture trop administrative, trop rigide sur la gestion des problèmes. Et là, peut-être, il y a un peu une agilité qui est demandée, une flexibilité. Mais encore une fois, je crois qu'on a un peu vite confondu la demande de flexibilité dans la société avec une demande de plus libérale, de faire ce qu'on veut et de moins d'État. Alors que je crois que dans la culture politique française, il y a les deux. Il peut y avoir une demande de flexibilité, une demande de liberté qui est corollaire, conjointe d'une demande d'État-providence fort. Et j'ajoute que la France, est un pays quand même qui a développé depuis un demi-siècle une forme de presque de patriotisme d'État-providence. Hein, quand on demandait en 2007 aux Français quel est le symbole de la France, on disait le drapeau français et la sécurité sociale. Et je crois que vraiment ces deux piliers représentent bien en fait la concession qu'ont les Français d'un État à la fois fort et qui redistribue, mais de l'autre, des demandes éventuelles encore une fois, une culture du gouvernement plus souple. Et je crois que ce que la crise va révéler, c'est pas tant un État qui pourrait pas tout, je crois que là ça n'a pas beaucoup changé, mais au contraire une demande de changement de culture du gouvernement.
Oui. Aux États-Unis, vous voulez ajouter quelque chose, Jean-François Boutard?
Oui, je voulais dire que je me pose la question de savoir s'il n'y a pas eu aussi une date très importante pour le fonctionnement de l'État, ou du moins, parce qu'il y a plusieurs, l'État c'est plusieurs choses, c'est à la fois d'une certaine manière pour une part le gouvernement, mais c'est aussi l'administration, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et s'il n'y a pas eu une date, quelque chose qui a fait date dans l'administration, c'est l'affaire du sang contaminé, avec le procès qui a eu lieu, et qui, avec les incriminations, et qui a amené une administration, des réflexes dans l'administration qui sont des réflexes de protection, c'est-à-dire et une certaine rigidité par rapport au règlement, par rapport aux lois, etc. On l'a, enfin, je veux dire, ce qui s'est passé avec la question des masques, des tests, etc., enfin, les enquêtes, notamment celles du Monde, l'ont assez bien montré, c'est l'incapacité d'une administration qui était sans doute tétanisée par le risque devant lequel elle se trouvait, de prendre des initiatives où, enfin, j'ai encore un témoignage encore récent de quelqu'un de l'ARS qui expliquait que cette personne expliquait qu'elle passait son temps à rédiger des notices qui indiquaient comment les personnes, les fonctionnaires en dessous d'elle devaient faire des choix, se comporter, etc. Parce qu'il y avait une demande de savoir ce qu'on devait faire pour ne pas être pris en défaut.
Eh bien, Vincent Martini, vous voulez répondre, allez-y.
Oui, absolument, sur cette question-là, je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est la loi sur le sang contaminé, l'épisode du sang contaminé qui a vraiment changé les choses. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Jean-François Boutan. Mais je mettrai une autre cause, c'est tout simplement les deux lois d'organisation des lois de finances et la loi de réforme de l'administration et des services publics en 2007 et 2012, qui ont créé à la fois une culture de performance, de mise en compétition des services publics entre eux et avec le secteur privé d'une part, et de l'autre, paradoxalement, c'est que ces lois qui voulaient rendre le service public plus performant, elles ont aussi multiplié les règlements administratifs visant à comprendre comment améliorer les performances du secteur public, renforçant pour les agents les mesures de contrôle en termes de ressources humaines, de leur personnel et de leurs actions. Donc je crois que c'est vraiment ça qui a été en œuvre depuis maintenant quinzaine d'années, et qui, je crois, qui pourrait être remis en cause. C'est là où toutes les lois sur la performance à l'hôpital, les lois sur le taux de rotation des lits, surtout l'idée qu'il ne faut jamais qu'un lit soit inoccupé, qui a mené quand même indirectement à une situation dans laquelle les taux d'accueil étaient finalement insuffisamment élevés en cas de pandémie, puisque quand vous gérez des données de performance en fonction de ce qui se joue aujourd'hui dans un contexte de contraintes financières très lourdes posées par Bercy, vous ne pouvez pas anticiper un futur, une pandémie, une épidémie, parce qu'elle bouleverse vos scénarios et que vous préférez gérer à court terme des services publics sous pression financière et sous pression, technocratique, plutôt que d'anticiper l'avenir. Donc, peut-être que ça s'est joué aussi au moment du sang contaminé, mais j'ai l'impression que ces lois, ces règlements, que les Français ne connaissent pas, qui sont quasiment invisibles, mais que tous les agents de la fonction publique à certains niveaux connaissent, puisqu'on sait comment fonctionnent ces nouveaux règlements depuis une quinzaine d'années, a profondément transformé l'action de l'État. Je ne crois pas dans une bonne direction, et c'est peut-être là qu'il faudra un peu réfléchir, pas forcément à des réformes spectaculaires de l'État, mais à redétricoter ce qui a été introduit, et qui a été introduit, à mon avis, pas toujours de bonne loi.
Alors, si vous le voulez bien, on va essayer d'élargir un petit peu, parce que c'est on parlait des dirigeants des démocraties occidentale en général, aux États-Unis, qui viennent de dépasser d'ailleurs aujourd'hui la barre des 100 000 morts de Covid-19. Donald Trump est désormais en retrait dans les sondages nationaux par rapport à son rival démocrate Joe Biden pour la présidentielle. On n'est pas du tout, et on le sait bien, en train de prédire le résultat de la présidentielle américaine, puisque ce sont les états clés qui vont compter dans le final de l'élection. Est-ce que ce sont quand même les hésitations et les outrances de Donald Trump sur cette affaire de coronavirus, ou le simple fait d'être aux affaires au mauvais moment qui explique cette chute assez continue maintenant depuis quelques semaines dans les sondages. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Boutor?
Je pense que d'abord, il y a certainement pas de chance d'être au pouvoir à ce moment-là, mais bon, ça c'est vrai pour tous les autres dirigeants. Par ailleurs, Donald Trump, qui au fond, depuis quelques mois avant même le début de la pandémie, avait décidé qu'il allait d'un côté être chef d'État et de l'autre côté être un leader en campagne, a traité la manière de gérer cette crise comme s'il était en campagne, avec ses habitudes d'outrance, de politique non correcte. Incorrect pour dans les modes d'expression, Et vraiment, là, ça n'a pas marché. Je veux dire, la séquence où il explique qu'il faudrait peut-être introduire un détergent ou bien des rayons UV à l'intérieur du corps des malades, elle est proprement ahurissante. Et là, il ne peut pas accuser quelconque adversaire politique d'avoir dit ça à sa place. Donc il est sur un registre d'expression politique qui est, à mon avis, qui lui est très, au fond très défavorable.
Qui est inadapté à la situation actuelle, c'est ce que vous voulez dire.
Tout à fait, oui. Mmh. Parce qu'il est dans une espèce de volontarisme que l'inconnu de la situation ne lui permet pas. Rappelez-vous, il disait, si on est à moins de 100 000 morts, on s'en sera bien tiré. Mais il va être à plus de 100 000 morts.
Oui. Vincent Martini, est-ce que c'est surtout une question de, non pas de décision prise, mais de, parce que aux États-Unis, en plus, ça revient quand même surtout à l'échelon local, mais surtout une décision de communication ou de style, une question de communication ou de style?
C'est quand même un peu plus que ça. Moi, je pense que l'enjeu pour des gens comme Donald Trump, comme Jair Bolsonaro, et pour les leaders populistes en général, leur mode de gouvernement, leur culture de gouvernement, va vers la confusion entre la réalité et la fiction. Alors, on voit bien qu'ils sont des gens qui vivent dans un univers fictionné et qui inventent une réalité parce qu'ils croient que la politique permet un peu de dire n'importe quoi et que c'est la fameuse thématique des fake news. Le problème pour quelqu'un comme Donald Trump, c'est qu'autant on peut tricher avec les chiffres du chômage, on peut tricher avec des réalités qui sont très loin de son pays, mais quand les morts liées à une maladie, la pandémie, c'est exactement l'antithèse de ce qu'il faudrait pour pouvoir faire fleurir le virus populiste, parce que là, c'est la réalité. Hein, ce sont des gens à l'hôpital, ce sont des gens qui meurent, et donc avec des familles qui vous considèrent comme responsables, à tort ou à raison d'ailleurs, puisque vous l'avez rappelé, à l'échelon local, surtout que ça se joue, et finalement, le gouvernement américain en plan fédéral est un gouvernement relativement faible. Alors, je dis relativement faible par rapport notamment au gouvernement français ou au gouvernement en Europe. Mais quoi qu'il en soit, je crois que ce que Donald Trump paye, justement, c'est cette confusion entre fiction et réalité permanente, où tout d'un coup tout devient un jeu, et ce jeu se retourne contre lui, parce que je crois que là, les Américains voient que dans la réalité, d'une certaine manière, ces déclarations sont non seulement, elles ne fonctionnent pas, mais elles sont même proprement scandaleuses, et elles heurtent la sensibilité de nombreuses familles qui ont perdu un proche, ou qui, dont les proches sont à l'hôpital.
Jean-François Boutor,
si
allez-y.
Je peux me permettre, néanmoins, une partie de son électorat, au fond, est dans cette demande-là. C'est-à-dire une partie de son électorat, et lui aussi dans l'idée que la réalité peut être celle qu'on invente. On trouve ça du côté notamment de tous les chrétiens évangéliques qui sont dans des dénis de réalité depuis longtemps et qui continuent à l'être et pour qui je ne suis pas sûr que même les morts font d'une certaine manière ont le poids de réalité un poids de réalité suffisant pour les ramener à terre. Mais ça on le sait depuis longtemps puisqu'on a des gens qui contestent les réalités scientifiques les plus évidentes. Dans un certain nombre d'États américains, y compris exige dans la législation qu'on ne parle pas de la théorie de l'évolution, etc. Donc ça, il y a si Trump a choisi aussi cette ligne-là, c'est parce qu'il pense que ce noyau-là, il en a absolument besoin pour pouvoir gagner l'élection.
D'accord. Oui.
Je dis simplement parce que c'est une histoire de longue date. Le poids des évangélistes américains dans les campagnes électorales américaines, c'est quelque chose qui commence pratiquement il y a 30 ans ou 40 ans.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Boutor, d'avoir participé à cette émission. Vous saluerez Jean-Luc Nancy quand vous l'aurez. Et merci à vous, Vincent Martini, de nous avoir rejoint au dernier moment. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Et je vous assure que c'était sportif. Javier González Gavilán. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres, appliquez toujours les gestes barrières et bonjour chez vous.